capitulation le 2 septembre 1870. On peut citer tout de même une action héroïque de deux de régiments, enfin de plus ou moins 5 régiments de chasseurs d'Afrique du général Marguerite et la brigade des cuirassiers du général Bonhamin, qui vont se sacrifier, alors là c'est la folie totale, pour essayer de briser les lignes, l'ennemi, l'encerclement. Et ce sont des cavaliers, ils foncent sabre au clair, sabre haut, bien sûr c'est un massacre, la tentative de percer échoue. Et donc il y aura 3 vagues successives et 50% de morts. C'est un petit peu comme, on va dire, du temps de François Ier, on va dire. C'est héroïque et fou, voilà. Et donc, drapeau blanc est tissé, et je l'ai dit, c'est la reddition. L'empereur va se constituer prisonnier avec son état-major, avec MacMahon, etc. Et 2900 officiers et 72 000 sous-officiers et soldats. Voilà. Par exemple, voilà le texte qu'il donne de la reddition. Donc, s'adressant donc à son cousin, c'est ainsi qu'il l'appelle, hein, mais, Guillaume, qui est sur place et qui est présent, le vieux roi Guillaume. « Monsieur mon frère, n'ayant pu mourir au milieu de mes troupes, il ne me reste qu'à remettre mon épée entre les mains de votre majesté. Je suis de votre majesté le bon frère Napoléon. » Et Guillaume Ier, le futur Guillaume Ier, lui répond « Monsieur mon frère, en regrettant les circonstances dans lesquelles nous nous rencontrons, j'accepte l'épée de votre majesté. » Je la prie de bien vouloir me nommer un de ses officiers munis des pleins pouvoirs pour traiter les conditions de la capitulation de l'armée qui s'est si bravement battue sous vos ordres. De mon côté, je désigne à cet effet le général von Moltke. Je suis de votre majesté le bon frère Guillaume. Et Napoléon écrit à Eugénie pour l'informer du désastre. C'est donc la fin, il y aura, la guerre va encore se poursuivre, hein, et par exemple, il y aura encore des combats, hein, jusqu'à fin 1870, début 1871, mais le 4 septembre, eh bien, le gouvernement sera renversé, ça sera la révolution à Paris, et le corps législatif va proclamer la déchéance de l'Empire, et ce sera l'hôtel de ville, c'est toujours à l'hôtel de ville que les révolutions se passent et s'installent, qui est le fond baptismal des révolutions, c'est l'hôtel de ville. Donc le 4 septembre donc, est proclamé un nouveau gouvernement, est proclamé dans la République, et un nouveau gouvernement, avec notamment... plusieurs républicains, donc ça c'est, puisque c'est la République, Gambetta, Jules Fabre, Jules Ferry sont à sa tête, avec le général Trochu qui est gouverneur de Paris, et qui s'installe, qui prend la place, voilà. Donc pendant ce temps, eh bien l'impératrice va se prendre la fuite, ça sera, il n'y aura pas de résistance, hein, voilà. Rien n'est préparé pour résister, c'est vraiment l'impératrice est prise au dépourvu en quelque sorte, elle n'abdique pas, et donc le 30 septembre 1870 aux Tuileries, le ministre de l'Intérieur Chevreau lui transmet la dépêche de le 3 septembre de Napoléon III, l'armée est défaite. N'ayant pu me faire tuer au milieu de mes soldats, j'ai dû me constituer prisonnier pour sauver l'armée. Et donc, elle est quelque part révoltée, là, un cri du cœur, mais enfin, étrange, pourquoi ne s'est-il pas fait tuer, hein, quel nom laissera-t-il à son fils, voilà. Et donc, le 4 septembre, une délégation de députés se rend aux Tuileries, et supplie la régence de remettre le pouvoir exécutif une commission de gouvernement, entre guillemets. Elle refuse, mais, refuse-t-elle, de la dynastie, mais de la France, voilà. Et petit murmure à l'oreille, ou enfin, discrètement, l'un des membres de la délégation, Chevreau, lui dit « Rappelez-vous la princesse de Lamballe. » On sait que la princesse de Lamballe, amie de Marie-Antoinette, avait été massacrée pendant la terreur en 1793. Et donc bientôt une immense clameur se fait entendre. La foule défait les grilles, forçait les grilles du jardin des Tuileries et les grilles du carrousel, et il faut fuir. Il n'est plus temps de discuter. Et c'est une fuite assez étrange, assez rocambolesque, qui fait que l'impératrice va quitter les Tuileries avec un petit... Il n'y a pas de garde, il n'y a plus personne. Rien n'a été prévu, visiblement. Avec deux ambassadeurs, quelques fidèles, c'est une sortie discrète, une fuite. Et bientôt, par le musée du Louvre, elle se trouve dans la rue. Les deux ambassadeurs, elle, un fiacre, en fait. Hein. Elle peut être reconnue à tout moment dans cette foule et tuée. Hein. Et donc, je ne raconte pas, je n'ai pas le temps de compter le détail de cette fuite. Elle se retrouve seule avec une dame de compagnie. Et bientôt, ce seront deux personnages qui vont l'aider, Evans et Kranz. C'est-à-dire, c'est son dentiste qui va assumer sa fuite. Mais alors, de façon tout à fait, je l'ai dit, vraiment rocambolesque, et plus que risqué. Hein. On prend des fiacres, on prend le train. Enfin, à tout moment, risque d'être reconnu. Mais... in fine, ça va réussir, et elle va prendre le bateau à Trouville et partir en Angleterre à Chislehurst. Ça sera l'exil définitif anglais, où la rejoindra Napoléon III, une fois libéré, et le prince impérial. Napoléon III mourra en 1873, donc peu après, il était très malade, on le sait, et puis le prince impérial sera tué à 20 ans, hein, il s'engagera dans l'armée britannique, sera tué chez les Zoulous, hein, voilà, héroïquement, et elle, Eugénie, mourra seulement en 1920 à l'âge de 94 ans, voilà. Ainsi se termine de façon très rapide, c'est vraiment une chute vertigineuse, ce prospère et prestigieux et méconnu, je pense, Second Empire qui aura duré 20 ans. À bientôt, chers auditeurs. La prochaine fois, je vous parlerai, dans notre prochaine chronique, de Georges Sand, hein, notre écrivain français, plus qu'un écrivain, c'est une femme politique. À bientôt, chers auditeurs.